OK, ben oui, j'avais entendu. Ça roule, je pense que tu en avais parlé de ça.
Bonjour, Toula Drimonis.
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Là, vous allez faire le saut, on va se tutoyer parce que là, ça fait quasiment une demi-heure qu'on se parle. Mais quand les micros sont ouverts, on se vous voit.
C'est vrai? Oh oui. Ouais. Si... Ça va être dur pour moi.
C'est correct.
Côté êtes... grec, côté anglais, on fait ça rarement.
Je sais, le... Est-ce qu'en grec, il y a vous et tu?
Non, ça existe. Ouais? La grammaire est très similaire à la grammaire française. Mais sauf que côté, tu sais, les gens ne sont pas très formels non plus.
Vous êtes ici, Toula, pour un livre,
oui.
Nous, virgule, les autres. La virgule est importante.
Pour moi, oui.
Oui. Et Mathieu Bellil est avec nous pour... on fait ça maintenant, Mathieu. Hein?
Bonjour.
Je vous invite
ben oui.
Pour venir discuter, mettre de l'huile sur le feu, des
un
fois,
peu.
Mettre de l'eau sur le feu.
Oui, aussi.
Ou du sable.
Parfois, dans l'engrenage.
Pour discuter.
Oui, mais toujours dans le plaisir et le respect.
Mais vous êtes essayiste et éditeur dans la vie. Alors, oui. C'est sûr que votre regard de lecteur m'intéresse. Et intéresse les auditeurs.
C'est fort aimable.
Les auditrices. Toula, parlez-nous de vous un peu, parce que moi, je vous connaissais. Ben, je vous ai connu sur Twitter. À date, vous êtes beaucoup plus sympathique en vrai que sur Twitter.
Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Je me trouve pas méchante sur Twitter. Je pense que je suis quelqu'un qui est très. I'm a bit of a fighter. C'est ça que.
Mais c'est ça que ça fait, Twitter.
Vous êtes un peu militante, quand même.
J'aime pas ces mots-là, parce que souvent, c'est associé avec... Ça est devenu vraiment comme un mot négatif, souvent, puis je l'aime pas.
Okay.
Mais Twitter, ça fait ça. Moi aussi, je me rends compte, ma présence sur Twitter, c'est pas ce que je suis dans la vie. On dirait que ça nous donne envie. C'est peut-être depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter.
Non, pas blâmer Musk. J'aimerais vraiment Musk
pour
beaucoup de choses. Mais c'est trop facile. Mais vous avez raison. Finalement, c'est... Moi aussi, ça arrive que je dis « Ah non, il faut que j'arrête.
Je
quitte. » Parce que souvent, je reçois des commentaires qui sont vraiment méchants.
Les gens sont mines.
Oui.
On rassure les gens. C'est pas un livre sur Twitter. Nous, les autres. C'est une réflexion sur votre parcours de filles d'immigrants et une réflexion sur l'immigration, sur la différence, sur le rapport à la langue. Vraiment, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que vous êtes ici. mais j'avais des appréhensions un petit peu. Parce que j'avais pas tant d'appréhensions, mais j'ai beaucoup aimé, entre autres. Puis je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui. Notre relation à l'immigration fait partie beaucoup, beaucoup de la conversation. Elle est dans les médias. Et moi, je trouve qu'elle est souvent pas très bien faite. Puis je trouve important votre livre de lire quelqu'un qui l'a vécu, ce parcours-là. Parce que si on n'a pas vécu l'immigration... J'ai reçu Rosa Pires ici, il y a 3 ans, à la saison 2 ou 3, avec son livre « Ne sommes-nous pas toutes québécoises? »
Qui est un très bon livre que je cite.
Oui, plusieurs fois.
Ouais.
Mais le déclic pour vous...
Pour moi?
Ouais.
Le décès de mon père. J'ai perdu mon père, ça fait un décennie à peu près que je l'ai perdu, puis j'étais... C'est très simple. J'étais en deuil. Je pensais à lui, à son trajet. Puis son trajet est vraiment un trajet très typique de cette première génération d'immigrants grecs qui ont venu ici. Puis je parle de cette génération spécifique parce que la communauté grecque était ici pendant beaucoup plus longtemps.
Mais t'es arrivé en quelle année?
63.
Ah oui, quand même, OK.
63, puis ensuite, il est revenu, puis il est retourné avec ma mère.
Parce qu'il y a eu il est reparti, il est revenu.
Oui, mais juste
vous-même,
pour...
vous dites que vous avez vécu un peu
j'habitais... Oui, c'est ça. Comme famille, nous autres, on est partis ensemble parce que ma mère est tombée malade.
Ouais.
Puis je pense qu'il y a... Pas pour parler longtemps sur ce sujet-là, mais quand j'étais comme 9 ans, 10 ans... Non, 10 ans, ma mère est tombée malade.
Ouais.
Vraiment gravement malade.
Puis
jusqu'à mes 10 ans, mes parents travaillaient comme vraiment beaucoup, beaucoup.
Ouais, ouais.
Quand je me rappelle de ma jeunesse, de mon enfance... Tout ce que je rappelle, c'est mes parents toujours travaillant, toujours fatigués. Puis, ma mère est tombée malade gravement. Puis, je pense que mon père, il a eu comme un... comment je peux dire ça? Comme un
réflexe.
Oui, un peu comme de réaliser qu'il y a d'autres choses en vie.
Ouais.
Puis, les deux ont pris la décision de retourner en Grèce.
Proche de la famille,
pour que ma mère ne peut pas travailler pendant quelques années.
Ben oui.
Moi, j'étais 10 ans, j'avais pas vraiment un veto là-dessus. Puis, même si je n'étais pas prête pour ça, c'était vraiment un choc culturel. D'abord, pour moi, c'était nécessaire d'écrire ce livre-là parce que je sais je connais ce choc culturel de plusieurs façons.
Mm-hmm.
Parce que quand j'étais en Grèce à 10 ans, moi aussi, j'étais comme tous les gens autour de moi disaient « Ah, la petite Canadienne! »
Ah ouais.
Puis j'étais comme...
Oui, c'est ça. Hey, ouais. Arrête! Ils ne pas vous voir comme une
non,
grecque.
Non, pas du ouais. tout. Ouais. Ça a pris du temps puis beaucoup ouais. d'efforts pour moi aussi. Ouais. Puis même si je parlais grec, c'était vraiment un grec...
De Montréal.
Minime de, ouais. de Montréal, oui. Oui, le Greeklish un peu.
Ça, c'est un des chapitres que j'ai adoré. C'est
mais
pas
je voulais écrire ouais. tout ça parce que je voulais, comme je disais avant, c'est un sujet très lourd, un peu sérieux, mais à ouais. la même temps, j'ai quand même un sens de humeur. Puis je voulais trouver une façon de parler de ce sujet que ouais. je trouve qui sont nécessaires, mais à la même temps, ouais, comme ouais, de parler de choses personnelles, de parler de l'actualité, de parler de choses qui peut être drôle ouais. aussi, de l'immigration.
Mmh. Est-ce que l'écriture de ce livre-là aussi... Parce que c'est drôle, en lisant le livre, je me demandais, est-ce qu'on finit par avoir une dette quand on est fille ou fils d'immigrants par rapport au parcours de ses parents, ce qu'ils ont tenté de nous offrir? Est-ce que...
Ça dépend des parents, moi, je trouve, parce qu'il y a des parents...
Je le dis pas de façon négative.
Non, je comprends. Puis moi, je réponds honnêtement. Je pense qu'il y a des parents qui veulent vraiment que leurs enfants oublient complètement que ce sont les immigrants,
ouais.
que ce sont les parents qui insistent que leurs enfants ont le nom... plus anglicisé ouais. ou francisé, ouais, c'est ouais, qu'ils ne sont pas comme Arjodoula ou d'autres
ouais,
noms.
Ouais, ouais.
Ça dépend vraiment de chaque personne.
Ouais, ouais.
Puis comme je dis très clairement dans mon livre, tu sais, les immigrants ne sont pas un monolithe.
Non.
Exactement comme les gens qui sont ici. Chaque
ouais.
personne a ses rêves, ses propres...
Ouais.
Il y a une diversité propre...
oui,
au sein même.
Exactement, ouais. exactement. Mais oui, à la même temps, c'est sûr que cette première génération travaille tellement fort.
Ouais.
Ont vraiment le défi, puis des obstacles. Puis c'est sûr que la deuxième génération, qui ont la vie un peu plus facile,
ouais,
sont plus éduqués,
ouais.
comme dans mon, dans mon exemple, ouais. C'est sûr que je me sens, pas une obligation, mais... impulsion, la motivation ouais. de vraiment faire mieux,
ouais,
de se rendre fier, de...
D'être à la hauteur.
Oui, ouais. oui, un peu.
Est-ce que c'est votre père?
Oui, c'est mon père.
Donc, c'est...
Sur la couverture.
C'est un restaurant.
Mais oui, dans la restauration, comme beaucoup de
donc,
commerces.
Donc, il arrive en 63
ouais.
avec 50$ en poche.
En poche, pas plus que ça.
La Grèce, dans les années 60.
Oui, c'est ça, je me posais la question.
Très pauvre.
Oui. Ouais. Quel genre de...
En plus, mes parents viennent de sud de la Grèce, ouais. Laconia, Sparta,
ouais.
qui était vraiment encore
ouais.
plus pauvre.
Régime autoritaire, je crois, encore, dans les années 60?
Pas encore. C'est après. Je pense que quand mon père est venu, était encore la démocratie.
Okay.
Le Ruda était un peu
okay.
après.
Okay. Okay. Et quand ils arrivent ici, est-ce qu'ils ont déjà...
Son frère était ici.
Voilà, OK.
C'est à cause de la réunification
oui.
familiale.
Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, comment ouais. c'est important.
Oui, c'est important. Oui, c'est important. Puis on a les mêmes débats encore
tout
aujourd'hui.
Tout
je viens juste de la semaine passée, je passais presque toute ma semaine de rencontrer puis de parler avec les gens qui sont en train de... sont les Québécois puis les Québécoises qui attendent après les années
oui.
pour être réunifiés.
Avec leur famille,
oui. Oui, c'est ça, c'est, j'ai bien dit ça.
Ah, voilà,
avec leur partenaire, leur famille, les enfants.
Quand
vous
dites partenaire,
trouve...
vous voulez dire même un mari, une
oui,
épouse
oui.
peut être ailleurs.
Parce que les délais sont vraiment ridicules
ah, ouais,
ici.
Ouais.
Ils sont trois fois plus longs ici.
Ouais.
Au Québec que le reste
ici,
du Canada.
Ouais,
parce que c'est parce que notre gouvernement maintenant met le quota annuel,
ouais.
c'est ouais. trop bas.
Ah,
c'est,
ouais, okay.
c'est vraiment...
Là, quand vous dites le gouvernement, c'est de la CAQ. C'est pas au fédéral.
Non,
non
je parle de
que...
notre gouvernement provincial. Oui.
Parce que le gouvernement du Québec accuse le gouvernement fédéral d'être
sauf
lent.
Que, ouais, non. C'est, dans cette situation-là, c'est vraiment un problème qui est crié. Concernant
non,
la résidence
c'est
permanente,
oui, parce que,
oui. tout
parce
est complexe.
Parce qu'Ottawa pas si
non,
non,
tout
non
fait,
plus...
Tout fait, on va en parler tantôt, Mathieu, vous avez raison, oui. Il n'y a pas juste des bons et des méchants.
Ouais.
Non. Je ne dis pas que le fédéral fait tout correct,
ouais.
mais sur ces sujets, puis ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les avocats qui les disent, puis ce sont les gens impliqués, ce sont les Québécois puis les Québécoises qui sont vraiment fâchés maintenant
ouais.
contre le gouvernement,
ouais, ouais.
qui ne travaillent pas pour...
accélérer les choses.
Accélérer, ouais, c'est ouais. ça, merci.
Le ouais. discours officiel autour de l'immigration, moi, me dérange présentement. Il est déshumanisant et d'à peu près tous les partis. Mais moi, je vais revenir à votre livre, tout là, parce que vous brossez un tableau, je ne m'attendais pas à ça dans le livre, de plusieurs histoires de racisme au Canada,
mm-hmm.
depuis longtemps.
Ouais.
Vous parlez des Irlandais
oui.
à la fin du 19e siècle, qui étaient carrément des citoyens de troisième zone. C'est un peu la langue et la religion qui les a aidés. Ce qui les a aidés aussi, c'est l'arrivée d'une cohorte encore plus défavorisée, les Chinois.
Ouais. Différente, ouais.
Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ça? Dans les communautés. C'est drôle, je lisais ça. Tu sais, on parle, là, la plus grande émeute du monde contre les Grecs au monde a eu lieu à Toronto en 1918. Ouais. Ça fait plus d'un siècle.
Puis je pense que les gens ne seront pas au courant, pas du tout. Même les Grecs, même les plus jeunes, quand j'ai. Parce que j'avais écrit un texte pour McLean's à ce temps-là pour souligner le centenaire de cet événement-là. Puis il y a des gens qui m'ont écrit de Australie ou de partout pour me dire, moi, je ne connaissais rien de cet sujet-là. Ouais. Puis je pense, pour moi, c'était vraiment nécessaire parce que souvent, il y a des gens qui m'accusent d'être un Québec basher ou d'être contre le Québec. Puis c'est quelque chose qui m'effâche parce que je suis québécoise, premièrement. J'ai le droit légitime de critiquer mon gouvernement comme tout le monde ici. Puis, c'est pas parce que mon nom est allophone ou parce que j'ai écrit dans les médias anglophones que j'ai pas le...
La Gazette.
C'est pas parce que j'ai écrit pour La Gazette ou The Walrus ou n'importe quoi, Cult Montreal ou parce que j'ai un nom, je sais pas, mon nom de famille est pas de Tremblay ou whatever, que j'ai pas le droit de critiquer mon gouvernement. Ouais. C'est pas contre les Québécois et les Québécoises. Sont les personnes qui sont en pouvoir qui prennent cette décision-là ou utilisent cet langage qui est dangereux. Puis c'est pour ça que c'est important pour moi parce qu'encore là, il y a des gens qui disent « Mais lâche-toi avec le Québec. Pourquoi tu parles toujours de Québec? » Puis je dis « Je suis un journaliste québécoise. Qu'est-ce que tu veux que j'ai écrit de Saskatchewan ou de Romal? »
Cela dit, vous avez quand même, je pense, fait œuvre utile de prendre un pas de recul aussi puis de montrer que la vertu, elle n'est pas bien répartie
oui,
au Canada.
Oui, c'est ça. Ouais. Je voulais vraiment montrer que le Canada, pendant les centenaires, n'a pas fait nécessairement mieux.
Mais non.
Nous avons vraiment une histoire de les lois anti-immigration.
Ah oui.
Puis pour moi, c'était vraiment une nécessité de raconter toute cette parcours-là pour expliquer aux gens que quand les immigrants ou les enfants d'immigrants disent « Garde, ce discours-là est dangereux », je voulais montrer avec les exemples vraiment historiques que c'est la vérité.
Tout à fait.
Puis de faire attention, comme tu viens de dire, comment on parle de l'immigration.
Ouais. Cela dit, il y a des passages vraiment intéressants sur l'immigrant exemplaire. Puis ça vous achale, puis on s'en rend pas compte. En fait, vous réclamez que les immigrants aient des vies ennuyantes et médiocres, comme tout le monde.
Je dis pas que c'est ça le
coup,
mais je voulais comme flipper un peu le scénario, puis juste pour montrer que c'est pas nécessaire pour les immigrants. Parce que souvent,
c'est le syndrome qui me tue. Les immigrants sont pas obligés d'avoir
Daniel
des parcours extraordinaires.
On donne toujours les gens qui
ont... C'est les bons immigrants.
Oui, c'est ça. Puis c'est dangereux. Je dis pas qu'on peut pas célébrer tout ça.
Non, non, non.
Parce que, oui, c'est vraiment... C'est très bon que les gens améliorent leur sort. Puis les enfants, puis les grands-parents des immigrants sont capables de faire mieux puis de contribuer de leur façon.
Ouais.
Mais je voulais juste expliquer que... Parce que souvent, on a tendance, quand on parle de l'immigration, de parler de chiffres, de parler de positifs, négatifs, de parler des gens qui sont les humains.
On a besoin de gens pour
ce
domaine-là.
C'est ça. Puis souvent, c'est comme ça que les gens rentrent. Oui. C'est comme ça que mon père est rentré.
On va y revenir tantôt au devoir de loyauté, entre autres. Non, on est là. Allons-y. Parce que non, mais c'est intéressant, ça.
Oui.
Non, mais, on s'en rend pas compte.
Ouais.
Comment c'est épuisant de devoir toujours quelque chose à notre société d'accueil.
Ouais.
Et ça finit jamais.
Non. Puis oublie pas que quand j'ai écrit ce livre-là, beaucoup de choses puis beaucoup de thèmes sont un peu comme une réponse à les réactions que je reçois.
Ouais.
Toujours. Mmh. Je voulais expliquer pourquoi ces micro-agressions ou cette nécessité toujours de faire la preuve de loyauté vers ta province ou ton pays ou whatever peut être vraiment nuissant puis lourde. Lourde, vraiment.
Mais moi, je me permets d'ajouter sur la question de la loyauté que ce que je trouvais très intéressant dans cette partie de votre livre, c'est que aussi vous montrez que l'immigrant ou l'enfant d'immigrant, dans votre cas, c'est deuxième génération, vit ce qu'on pourrait appeler un conflit de loyauté. Parce qu'il y a la nécessité de s'intégrer, de participer à la société dans laquelle on grandit. Il y a la culture des parents. Et vous m'en avez un passage qui m'a frappé quand vous dites que parfois, dans le, mettons, on a toujours peur dans la communauté de l'image qu'on va donner à l'extérieur.
Sûrement. Comme,
qu'est-ce que les gens vont penser si tu fais ceci ou cela? Ou, tu sais, s'il y a une mauvaise nouvelle, parce que vous donniez l'exemple de ça, tu sais, je sais pas, il arrive un meurtre à Laval qui implique, tu sais, quelqu'un, un nobody, là, tu sais, peu importe.
Ouais.
Mais si c'est un meurtre qui implique un immigrant, là, tout à coup, ça prend une autre dimension.
Oui, tout à fait.
Le devoir de représentation exemplaire.
Et surtout
ça doit être fatigant.
Et pendant il n'y a pas si longtemps, il était alimenté par des chroniqueurs.
Oui.
Où on demandait, moi je me rappelle, on ne nommera pas, mettons que son nom commence par Ri et finit par Tino. Mais pendant la loi 21.
Ricardo.
Ricardo Martinet.
Florentino.
Ricardo Martinet, qui demandait à la communauté musulmane de justifier Adil Sharkawi. Mais on ne peut pas faire ça.
Comme ils sont tous responsables de... C'est ça. Puis comme je dis dans mon livre, quand il y a comme les...
quand les Hells Angels...
Mass murders ou quelque chose qui sont presque toujours faites par les hommes blancs, désolé.
Oui, francophones. Souvent, au Québec.
Micro-agression. Je parle
pas au Québec.
Non, mais je parlais même pas de Québec. Je parlais en général. Les plupart sont toujours faites par les hommes blancs, les mass murders.
Oui.
Je vois personne dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu te demander de te pardonner ou de parce que tu représentes tous les hommes blancs? Non. Ouais. C'est pour ça que c'est ça, je donne tous ces exemples juste que c'est comme une fenêtre à un autre monde. Ouais. Je voulais vraiment expliquer d'une façon très simple les choses que probablement les gens qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas une expérience personnelle de l'immigration ou d'être une minorité religieuse, une minorité culturelle, sont les choses qui sont très connues dans tous les minorités puis tous les immigrants.
Au Québec, on est un peu une minorité culturelle au Canada.
Oui,
parfois,
certainement.
Parfois.
Pas par.
Même à l'échelle nord-américaine. Oui,
mais c'est ça qui est drôle. Puis c'est à la même temps, c'est frustrant, mais fascinant pour moi comme journaliste, écrivaine, comme allophone, qui était un peu. Je me sens toujours un peu comme un no man's land. Je suis comme un peu. Je suis partout, mais.
Et nulle part.
Nulle part. Vraiment. Puis je suis toujours quelqu'un qui est en train de. Observer.
Ouais.
Puis je trouve ça fascinant.
Mais c'est une position intéressante
que
vous avez.
Oui.
Même si c'est un no man's land, mais.
Oui, je ne le dis pas. C'est pas nécessairement négatif pour moi. J'adore ma position. Je trouve que c'est vraiment intéressant. De temps en temps, c'est frustrant. Il y a des attaques de partout.
Ben oui. C'est, oui, c'est vrai.
C'est partout. J'écris quelque chose. Il y a des anglophones qui vont dire pourquoi tu dis ça? Tu connais rien de la communauté anglophone.
On dit des anglophones.
Existe encore, mais sont.
Des anglophones.
Mais sont moins de. Cette communauté est vraiment changée. Ouais, je trouve ça triste que nous sommes vraiment encore.
Mais vous donnez un bon exemple. C'est la femme, Marco Rousseau.
Oui, il y a ça, mais aussi j'allais
dire.
De qui?
Michael mon Dieu, je parle de.
Oui, mais vous dites, on l'a oublié dans les médias francophones. Les Anglos aussi étaient fâchés.
Mais oui.
D'entendre ce gars-là se péter les bretelles qu'on pouvait vivre seulement en anglais à
Montréal.
Parce que
c'est une. Oui, il y a des gens qui ne comprennent pas ça, mais parce que c'est une minorité linguistique.
Oui.
Que tout de suite, quand l'actualité a sorti, les gens ont dit oh non, maintenant on va blâmer. Ouais. Les gens vont blâmer. Tous les Anglos. Puis ça va servir comme exemple de la réticence de la communauté anglophone de parler français ou de comprendre le français. Ouais. C'est ça que je trouve le plus frustrant. Vas-y.
Je veux juste dire à propos de la... Non, c'est parce que je regarde de temps en autre la Gazette.
Oui.
Puis tu sais, les derniers textes, des gens comme Clifford Lincoln,
Moi, je l'adore, ces messieurs-là.
Oui, mais je veux bien, mais c'est parce qu'on est en 1984, là, tu sais, on est encore eux, ils sont dans la chicane, ils sont dans la vieille bataille. Alors, tu sais, souvent dans votre livre, moi, ce que je trouvais très beau, c'est que vous le dites à quel point les anglophones au Québec, il y en a beaucoup qui aiment le français, qui veulent. Mais quand on lit les médias anglophones, des fois, c'est difficile à croire.
Mm.
Parce que là, je ne vous ai pas parlé des commentaires qui viennent après. Là.
Laisse faire les commentaires parce que.
Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, à un moment donné, on se dit. En tout cas, s'ils nous aiment, ça paraît pas beaucoup dans le... Je comprends qu'il y a une bataille. Moi, ce qui me frappait, tu sais, pour revenir à la question, vous parliez de la gratitude. Et ça, j'ai trouvé que vous aviez raison de dire que parfois, peut-être qu'on tu sais, il y a souvent peut-être un réflexe qui va venir de gens qui vont regarder les immigrants et qui vont dire « Vous êtes mieux d'être reconnaissant pour ce qu'on fait. »
Ça m'arrive presque chaque jour.
Bon, mais ça,
puis vous êtes né ici.
Oui, c'est oui. ça. Un peu comme là, d'où tu viens. Puis moi, je peux vous le dire, mes classes d'étudiants sont à 80 % immigrantes et enfants d'immigrants. Je le vois tous les jours. Puis des jeunes qui me racontent qu'on leur demande toujours d'où ils viennent puis où ils ont appris le français. Mm. Mais Christy, son premier du Québec en dictée, tu sais. Puis il s'appelle Zhang, mais il parle un français meilleur. Par contre, dans votre livre, à un moment donné, vous défendez, ou enfin, je pense que vous le défendez, quelqu'un comme Balarama Holness.
Oh
là,
non, juste...
Là, je me dis... Parce que... Là,
non,
je me
attends.
Non, mais pardonnez-moi, je veux juste qu'elle finisse mon idée. C'est que là, OK, on veut pas nécessairement la gratitude, mais dans ce cas-là, c'est plus de l'ingratitude. C'est-à-dire, on se dit, peu importe le lieu où il va se trouver sur Terre, si tu t'attaques aussi directement aux intérêts et aux règles, est-ce qu'on considère dans une société comme un peu sacrée, un peu fondateur, ben c'est sûr que tu seras pas accueilli. Alors, l'altérisation, je conçois, vous citez un article qui montrait bien comment on pouvait altériser Balarama, par exemple. C'est un exemple, mais il m'a frappé. Ouais. Mais il s'altérise un peu lui-même aussi. Là.
Oui, non, je suis d'accord avec vous. Je ne défends pas nécessairement sa position. Ce n'est pas quelqu'un que je défende. Même lui, je pense qu'il ne m'aime pas parce que quand je l'attaquais pour dire que pendant les débats, je l'ai trouvé un peu sexiste que Denis Coderre, ce temps, vous vous souvenez de le débat?
Il était sexiste avec Denis?
Sexiste avec, oui.
Ah, mais contre Valérie.
Contre Plante. Valérie Plante.
Pas
j'ai
avec
aimé.
Denis,
non, okay. non, pas avec Denis. J'ai pas aimé le débat. Ouais, j'ai pas aimé le ton. Ouais. Qu'est-ce que je voulais faire dans mon livre? C'est que je lui ai donné comme exemple parce que les gens qui étaient pas d'accord, parce qu'il y avait un chronique de Mathieu Bocoté à ce temps-là, que je cite, qui était en train de parler de lui comme un enfant ingrat, quelqu'un qui a. J'aimais pas. Tu peux être.
Ouais, c'est un peu ingrat, quand même. Un peu, quand même.
Garde,
je dis pas que Mathieu Bocoté avait raison sur toute la ligne, mais.
Je connais beaucoup, beaucoup de francophones qui sont d'accord avec un Montréal bilingue. Ouais. C'est ça. Est-ce que sont ingrats? Est-ce que ces gens-là. Est-ce que.
Ils font pas campagne.
Je comprends. Mais qu'est-ce que je veux dire?
Ça n'a pas trop levé son affaire.
Non.
Tu peux être pas d'accord, tu peux être en désaccord avec quelqu'un, mais de vraiment comme mettre l'accent sur
l'origine,
la nécessité de la gratitude m'énerve. Puis en plus, à ce temps-là, j'étais encore plus fâchée parce que il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui faisaient des jokes avec son nom.
Ouais.
Les gens qui disaient « Ah, Dollarama, fais ça. » Puis ça m'énerve parce que...
Ça aussi, c'est dur.
Mais je défends pas cette position, je le dis publiquement parce que...
Vous parlez de ça, les noms. Ça a l'air anodin, le nom.
Ouais.
Les noms vont changer pour des fois faciliter l'intégration.
Sûrement.
Et on mesure pas la perte.
Oui.
Ouais. Quand même.
Puis même, je parle dans mon livre, la nécessité de honorer les noms, les noms de famille, les vrais noms, de prononcer les noms comme il faut.
Tout à fait.
C'est très important. Puis quand les gens font, tu sais, ils font les jokes avec les noms, c'est une microagression. Ouais. Mais pour moi, la raison que je parle de ça, premièrement, parce que je trouve que c'est fascinant, c'est intéressant, puis les gens connaissent pas souvent comment les immigrants font les efforts pour intégrer. Puis je voulais montrer aux gens qui disent mais c'est l'intégration, l'immigration, c'est pas juste nous qui vont faire l'effort. Souvent la majorité, la société d'accueil comprend pas comment les immigrants font les efforts pour s'intégrer bien parce que souvent c'est invisible,
c'est immatériel, on peut pas le voir.
Oui.
Vous racontez bien dans votre enfance, donc vos parents travaillent 16 heures, 18 heures par jour dans des restaurants.
Ouais.
Vous allez les rejoindre, vous avez quel âge là, vous marchez?
Je sais pas, 9 ans, je sais pas.
C'est comme un hommage aux enfants de la génération qui sont très autonomes.
Oui, je pense à ça maintenant, puis je dis, mon Dieu, comment ça se fait que je suis encore ici? Puis je me rappelle des choses, j'étais comme 7 ans, 8 ans, marcher toute seule, croiser les autoroutes, parce qu'à cette époque-là, mes parents avaient les restaurants près au stade olympique.
Ah ouais?
Sherbrooke? Sherbrooke. D'abord, j'ai traversé Sherbrooke, j'étais comme 8 ans. Mais j'étais comme vraiment quelqu'un très... Puis ça arrive souvent avec le premier enfant.
Ouais. Ouais.
J'étais vraiment quelqu'un qui était très responsable, très... j'adorais l'école.
C'est très mature.
Très mature, c'est ça que le mot que je cherchais. Ouais. Oui, très mature. Puis c'est drôle parce que encore là, j'ai vécu un choc culturel parce que à 10 ans, on a déménagé en Grèce. Ouais. Ma vie était complètement différente parce que je venais d'une enfance où j'étais comme très indépendante. Ouais. Puis finalement, on a déménagé dans une petite ville. Ouais. Je viens de Montréal.
Ouais. Tout le monde
puis
se
mes parents travaillaient toujours. Ouais. Moi, j'étais toute seule. Finalement, une petite ville où tout le monde te connaît. Les gens sont vraiment comme « Oh mon Dieu, c'était une réalité complètement différente pour moi. »
Combien de temps vous êtes resté là-bas?
Jusqu'à 21.
C'est formateur.
En fait, toute mon école secondaire, toute mon école, c'est l'équivalent de cégep. Oui.
Ici, et l'identité grecque en Grèce, avez-vous senti qu'il y avait déjà un fossé?
Oui, c'est incroyable. Là aussi, je me sens comme, je ne sais pas où je peux me situer parce que j'adore la communauté grecque ici. Même si je fais pas trop de choses avec la communauté, c'est pas ma réalité. Puis ça arrive souvent avec beaucoup de communautés culturelles. Les gens qui sont ici, la première génération, deuxième génération, veulent vraiment garder
le lien,
la culture, la religion, la langue. Ils deviennent souvent très traditionnels. Parce que mes parents étaient vraiment les gens avec pas beaucoup d'éducation, pas beaucoup de moyens, qui ont très, très travaillant. Chaque décision que je prends, chaque perspective, mon perspective est toujours colorée, comme affectée par mon enfance, cette réalité où je viens.
Il y a beaucoup, cette réalité-là ressemble à beaucoup aussi de familles québécoises quand même.
Mais oui, certainement.
Pas d'éducation, côté modeste. Ça a été longtemps très agricole.
Au Québec, on appelle ça
plus de points en commun qu'on pense.
On parle un peu de. Tu sais, le Québec, on dit souvent qu'il y a une sorte d'héritage de la pauvreté. C'est-à-dire que
certainement.
Ça fait pas très longtemps que les Québécois eux-mêmes ont accédé à une vie, à plus d'éducation. Ouais. Il y a encore beaucoup de Québécois, de souche, je ne sais pas comment le dire, mais qui sont les premiers à aller à l'université. Ouais. Et donc, oui, ça résonne. Et ça résonne beaucoup. Et je pense que ça fait même, j'oserais même dire qu'il y a une partie de ça qui explique la grande sympathie que les Québécois ont pour les nouveaux arrivants. Parce qu'on parle beaucoup de... On parle beaucoup des discours politiques, parfois négatifs, mais c'est vrai que globalement, et vous-même vous le rappelez dans votre livre, globalement, ça se passe quand même bien.
Oui, tout
puis
à
des
fait.
Des fois, c'est pas ça dont on parle.
Cela dit.
Mais là, je sais qu'on va arriver au discours politique. Mais je veux dire, quand on fait des sondages et qu'on demande aux Québécois comment voient-ils les immigrants, la majorité ont une opinion plutôt positive.
Ouais.
Et même dans les derniers sondages, apparemment, plus qu'ailleurs au Canada, je sais pas si c'est nouveau ou si c'est. Ben, je sais pas pourquoi.
Cela dit, parlons-en de ce discours sur l'immigration. Puis comment vous le percevez, Tula Drimonis, ce discours-là? Parce que peut-être que les sondages, effectivement, quand on creuse la population, ils ont une opinion favorable, mais des termes comme menaces potentielles, troubles sociaux, menaces à la cohésion sociale, c'est des choses qu'on entend de la bouche de politiciens. Jean-François Robert, cette semaine, a dit que là, on est rendu à une menace pour l'identité.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est on manipule des grenades.
Tellement.
Ils jonglent avec des grenades.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Tellement.
Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, au mois de janvier, qui a fait un long message Facebook pour dire que avec le nombre d'immigrants qu'on a au Québec, il va y avoir des graves problèmes sociaux. Là. C'est des termes, je trouve, qu'on manipule de façon vraiment trop légère. Chez les immigrants, comment c'est perçu? Là, je veux pas que vous soyez la représentante, mais bon, c'est pas la première fois.
Vous l'êtes un peu.
Mais aujourd'hui, ici... Là, bon.
Pour ce discours, pour ce débat ici.
On est tous enfants d'immigrants, issus d'immigration, les trois ici, mais il y en a que ça fait quelques siècles, donc...
Bon, j'ai une réserve là-dessus, moi.
Ah? Vous considérez pas qu'on est issus d'immigration?
C'est parce que si on implique cette... Je sais que c'est ça fait sympathique à dire, là, nous sommes tous des immigrants, mais c'est parce que si c'est le cas, Tula n'a pas besoin d'écrire son livre. On connaît déjà la réalité immigrante.
Oui, mais c'est parce qu'on l'a peut-être oublié. Ça fait 400 ans.
Alors, on n'est plus immigrant dans ce cas-là.
Non, mais dans les faits, Mathieu...
Non, mais à ce compte-là, je veux dire, l'humanité entière est immigrante.
C'est vrai.
Ben, ouais,
les Premières Nations aussi sont arrivées du détroit de Bering.
Ben oui, ça fait, c'est ça. Ça fait 11 000 ans.
Oui.
Non, mais tu sais, je veux dire, oui. Comprenez? Ben, je pense que là, je comprends l'idée. On est tous quelque part des descendants ou immigrants. Mais là, je trouvais que ce terme, cette phrase-là me convainquait moins.
OK.
Mais comme je dis dans mon livre...
Sinon, pourquoi écrire un livre là-dessus?
Comme je dis dans mon livre, nous sommes tous des immigrants. C'est juste mes parents ont pris le bateau un peu plus récemment. Oui. C'est pour venir ici. Mais je comprends ton point aussi.
Vous n'êtes pas immigrant. Ben vous l'êtes parce que dans le sens, vous êtes allé en Grèce.
Non, pas nécessairement. Je suis née ici.
Ah oui, c'est ça. Ben voyez, c'est ça.
Je suis pas... Je me considère deuxième génération, mais c'est vraiment proche à l'immigration. Je comprends ton point que c'est nous sommes tous des immigrants, mais c'est sûr que quelqu'un qui sa famille est venue ici pendant les siècles, ou je sais pas quand en famille est venue ici.
Au 17e siècle. Non, mais moi, attention, là, je dis pas ça pour dire...
1684.
Ouais, ben, moi, je dis pas ça. Moi, c'est 166. Mais moi, c'est pas pour dire ça me donne le droit du sol
non,
et du sang.
Pas.
C'est pas ça que je veux dire. C'est juste, je pense que pour moi, le mot, quand j'ai vu la phrase, j'ai dit, c'est sympathique, je comprends ce qu'elle veut dire, mais en même temps, comprendre ce que c'est la réalité immigrante, moi, je suis désolé, je la comprends pas. Je la comprends, mais je ne l'ai pas vécu.
Fait que mes parents non plus. Mais tu as raison, mais c'est pour ça que j'ai écrit le livre, pour rappeler aux gens que nous sommes tous les immigrants, puis de rappeler les gens, aux gens que ce discours-là, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui avec le gouvernement? Moi, je trouve que ce discours politique qui marginalise les minorités ou les immigrants ou les demandeurs d'asile, tous les autres, c'est pour ça que le livre est We the Others, puis nous les autres, tous les autres, c'est vraiment dangereux pour moi. Je trouve, j'ai écrit le livre un peu comme un avertissement, comme un peu comme faites attention comment vous faites ce débat-là. Parce que
il y a des impacts, it's lose-lose,
c'est perdant-perdant pour tout le monde, parce que c'est pas juste que ça crée comme, si on traite les immigrants, premièrement, comme tu as dit, comme une menace, comme on parle de noyade démographique chaque jour. Je comprends vraiment, les inquiétudes culturelles et linguistiques.
C'est des gros chiffres. Parce que, mettons, quand on regarde des graphiques, là, puis c'est pas des graphiques que je trouve dans des boîtes de céréales, là, c'est des graphiques qui ont l'air sérieux. Les chiffres sont quand même, je veux dire, la montée, elle est quand même marquée. Donc, c'est un défi. T'sais, mettons, on peut le prendre dans un sens de le mot défi comme menace, mais on peut juste dire que c'est un défi, même logistique.
De ce qui concerne les demandeurs d'asile, je pense que le mot défi, c'est correct.
Ouais.
Est-ce que le croissant... Oui, il y a eu une augmentation, mais c'est pas si pire que les gens disent souvent. Mm-hmm. Je pense que c'est exagéré pour les fins politiques.
Ouais.
Puis, quand j'écris mon livre, tu sais, le premier livre, je parle de l'immigration, c'est quelque chose que j'ai eu comme une expérience personnelle, une connaissance personnelle. Pour le deuxième livre, je suis pas un expert sur les demandeurs d'asile, j'ai pas une expérience personnelle.
Mm-hmm.
J'ai pris vraiment le temps de parler avec les experts de migration, les personnes qui sont là dans l'université, leur métier, c'est vraiment
Leur champ d'expertise.
C'est ça, le champ d'expertise, c'est vraiment la migration, la crise de migration, les demandeurs d'asile, comment ça fonctionne le système, puis pour mieux expliquer aux gens. Je peux pas comme résumer tout mon livre, mais je peux dire que de qu'est-ce que j'ai sorti de tous ces entrevues avec une meilleure connaissance de qu'est-ce qui passe sur le terrain. Puis presque tous sont d'accord que ce sujet-là est souvent manipulé, exagéré par les politiciens et le gouvernement d'une façon qui est pas vraiment très responsable pour les fins politiques. Avec Wrexham Road, il manquait vraiment la volonté fédérale, provinciale aussi, de régler ces problèmes-là d'une manière plus responsable, qui a créé encore plus de problèmes.
Parce qu'on ne peut pas juste fermer les frontières.
Non, mais ça n'arrive pas. Puis c'est ça que je parle dans mon livre beaucoup. J'explique la crise de migratoire qui va continuer.
Oui.
Puis souvent, je vois les gens disent « Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on reste au Canada? On va voir l'indépendance. » Ben OK.
Ouais.
Demain, si le Québec devient indépendant, tu vas faire quoi avec les demandeurs d'asile?
Est-ce que tu penses... Les gens vont vouloir rentrer quand même.
Sûrement. C'est un problème qui était pas réglé avec la fermeture de Wrexham Road, qui va continuer parce que la crise migratoire va augmenter
avec la crise climatique.
C'est ça. Ça veut dire pas que Québec a pas eu la majorité. Ça, je peux pas. Je suis pas dans le déni. C'est sûr que le Québec a reçu la plupart de. Puis c'est pas parce que les gens rentraient au Québec, c'est parce que les gens rentraient au Canada. Ouais. Sauf que c'était plus facile de rentrer. Oui, il y avait sûrement la communauté, beaucoup de membres de la communauté haïtienne qui est venue des États-Unis parce que sont les gens francophones. Ouais. Puis souvent ces gens-là. Puis même moi, j'ai rencontré les gens qui étaient très heureux d'être ici parce qu'ils voulaient rentrer dans une communauté francophone. Puis moi, je trouve que nous sommes entrés avec ce discours-là
C'était ça ma question, puis je comprends que vous en parliez parce que j'étais très curieux de savoir. Là, on n'est pas dans nous les autres, mais on est dans. Mais en fait, sauf qu'en fait, on est dans nous les autres aussi.
Oui, c'est une continuation. Mais vraiment, c'est pour ça que j'ai écrit, c'est une continuation de ces livres-là.
J'étais justement curieux de savoir, vous, d'après ce que vous regardez, parce qu'il n'y a pas de données là-dessus, puis ça m'intrigue beaucoup. Ils viennent beaucoup d'Haïti.
Oui.
Est-ce qu'ils viennent beaucoup. On parle beaucoup du Mexique. Aussi?
Oui, beaucoup Mexique, Venezuela.
Colombie, peut-être.
Oui, c'est ça, beaucoup. Okay. Puis parce que c'est plus facile pour eux juste de marcher ou de prendre le.
Imaginez.
C'est incroyable. J'ai parlé avec les gens qui
Ils n'arrivent pas tous en Lexus comme on peut le
prendre. Les mois avec... Oui, c'est sûr qu'il y a des gens. J'ai rencontré les gens qui viennent de Mexique, qui ont pris un avion, qui sont ici.
Oui.
C'est pas toujours les mois puis les mois en marchant. Il y a beaucoup de parcours différents puis de raisons différentes. Mais à la fin de journée, ces gens-là vont venir ici, ils vont frapper sur notre porte. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Est-ce que... Parce que on peut parler, puis on peut dire plein de choses, mais à la fin de journée, Canada, comme d'autres pays, nous avons l'obligation légale de laisser ces gens rentrer puis appliquer pour l'asile.
Oui.
Puis à la même temps, l'obligation morale.
Oui, c'est ça que j'allais dire.
Qui est vraiment important. Oui. La plupart de ces gens-là fuirent la guerre, la violence, le génocide. Puis nous sommes en train de dire, hey, excusez-moi, est-ce que vous parlez français si on veut te laisser rentrer ou est-ce qu'on va te distribuer ailleurs?
Ou peux-tu l'apprendre en 6 mois, s'il te plaît?
Oui, c'est ça.
Pour avoir un grade 8.
J'ai beaucoup, beaucoup de problèmes avec ces politiques-là. Le 6 mois, moi, ça m'agace.
Je vais aller plus loin aussi. On est aussi, je crois, par nos régimes politiques qu'on a choisis dans les dernières décennies, qui ont souvent contribué aussi à l'instabilité politique dans d'autres pays et l'instabilité économique. Et ça, je pense qu'on a ce devoir moral-là.
Oui, puis je parle de ça aussi dans mon livre.
Accueillant possible. Cela dit, c'est vrai que ça pose...
Vous voulez dire une partie de notre prospérité ces pays-là ont de la misère.
Oui, tout à fait.
Je regarde mon iPhone ici. Là.
Oui, exactement. Voilà. C'est très facile de fermer les yeux et de dire... Oui, c'est ça. C'est très facile pour nous.
C'est pas moi, individuel, qui va régler le problème.
Non, non, non.
Je veux pas que... Mais je pense que moralement, on a quand même... une certaine dette, puis ne serait-ce que de parler intelligemment d'immigration, ça serait déjà un début, puis d'arrêter de brandir des épouvantails. Parce que je pense que les politiciens, tout parti confondu, ne parlent pas intelligemment de et votre livre aide aussi à humaniser, en fait. C'est pas juste des chiffres puis des quotas qu'on met dans des industries. Parlons de la langue. Vous êtes dans une communauté qui, j'imagine... et trilingue, peut-être pas les...
les jeunes générations sont tous trilingues.
Ouais. Vous parlez de Jean-Pierre Gobeil, entre autres, qui est sociologue.
Corbeil. Je suis en train de dire qui?
Sociologue, Corbeil, qui a travaillé au fédéral, entre autres, je pense, pour définir...
Statistics Canada.
Qui se demande si le clivage... Puis moi, c'est un sujet qui m'interpelle parce que moi, j'ai changé beaucoup de position par rapport à ça. J'ai reçu Franz Voltaire, entre autres, qui a écrit un livre sur son parcours aussi, qui a vécu sur plein de continents et qui a un rapport à la langue qui est différent. Et j'ai l'impression que notre rapport à la langue, là, collectivement, il est très difficile au Québec. Je sais, Mathieu, qu'on ne partage pas la même position. Comment vous l'avez vécu en tant que fille issue de l'immigration, qui parle 3 langues? T'sais, on parlait tantôt des identités, des conflits de loyauté. Moi, je trouve que le livre comme le vôtre nous montre qu'on peut avoir plusieurs identités.
Oui, certainement.
Puis ça, majoritairement, on l'oublie, ça.
Oui.
Je pense. Puis on gagnerait à accepter cette idée-là que nos identités sont fluides, à plein niveau.
C'est sûr que je représente juste... Je représente moi-même, je ne représente pas tout le monde.
Non, non, non.
Mais pour moi, d'avoir plusieurs identités, c'est très facile pour moi, puis c'est une richesse. Ouais. C'est, je me sens pas comme... J'ai pas un conflit pour moi. C'est pas, ah, oh, est-ce qu'il faut que je sois... Tu sais, quand les gens me demandent, est-ce que t'es Québécoise? Est-ce que t'es un vrai Québécoise? Toi, ah oh, non, toi, t'es un Canadienne. Moi, ouais. Je dis non, je suis tout ça. Je suis Canadienne, ouais. Oui, c'est ça que mon passeport dit, puis ouais. J'ai pas... C'est drôle parce que
c'est
quand...
Dur, c'est dur de se sentir Canadien, cela dit. Moi, j'ai la misère aussi.
Mais c'est correct.
Je me sens pas...
Puis vous avez le droit.
Je me sens pas du tout.
Non, mais c'est correct.
Ce qui m'a fait rire en passant, c'est que des fois, je me disais, vous donnez presque des arguments aux souverainistes parce que vous m'en avez, vous racontez que vous allez à Calgary puis oui. Vous trouvez que ça a l'air
mais c'est la vérité.
Oui.
Mais, ben oui, c'est ça.
Mais tu peux aller à n'importe quelle province que tu vas sentir la différence. Ils sont pas tous pareils. C'est pas comme
ouais,
une monolithe.
Tu sentiras pas tant
c'est
la pas différence comme... entre l'Ontario et le Manitoba.
Ah, oui, mais je pense que...
Je connais bien le Canada anglais.
Je pense que ça, souvent, les Québécois, en plus les gens qui ont vraiment envie d'avoir un pays comme indépendant, exagèrent cette différence.
Ouais.
Parce que les Québécois et les Québécoises sont beaucoup plus nord-américaines qu'ils pensent.
Oui.
Souvent, ils disent... Oh, tu sais,
plus britannique aussi.
Vraiment.
Plus britannique qu'on pense.
Nous sommes quand même...
Voilà à Londres.
Unique ici. Puis,
j'ai vécu au Canada anglais. La famille de ma conjointe est anglophone du Canada. Mm-hmm. J'ai fait à peu près toutes les provinces. Ouais. Non, c'est quand
puis
même un autre pays.
Tu penses qu'ils sont tous similaires? Si tu vas à
Saskatchewan, mais c'est ça que j'ai dit. Non, mais oui, il y a des différences, mais c'est pas de la même ampleur du tout.
Non,
que,
c'est sûr que...
Il y a une culture des Maritimes,
oui.
Ça c'est clair.
Qui est complètement différent, oui.
Il y a une culture ontarienne, ça c'est... Parce que l'Ontario, c'est dans le fond, c'est eux autres qui mènent, hein, tout le temps. Manitoba, c'est un peu compliqué, hein, ils savent pas trop. Saskatchewan, ils sont pris entre... ils essaient de faire les grands écarts entre la gauche puis les rednecks de l'Alberta.
Mm-hmm.
Puis après, vous avez... Donc oui, bien sûr que c'est divers. Mais
c'est un autre pays.
Mais c'est autre chose, là. Je veux dire, quand même.
Mais c'est ça que j'essaie d'expliquer.
L'organisation
comme
du territoire,
oui, certainement.
La langue,
mais c'est
les
ça
références.
Que j'essaie d'expliquer dans mon livre, que même si je suis... une Québécoise, je suis allophone. Je suis une Québécoise allophone je me sens 100% Québécoise, beaucoup plus Québécoise que Canadienne.
Vous parlez du mouvement indépendantiste dans votre livre,
oui.
Qui a perdu beaucoup d'appui à cause de son virage identitaire. Et là, on est dans une époque où le PQ est en tête dans les sondages. Et il y aurait 35% des gens qui sont encore indépendantistes. Cela dit, ces pourcentages-là, moi, je me méfie dans la mesure où il n'y a pas de référendum qui s'en vient bientôt. Puis on peut compter sur le PQ, si on se fie à son histoire, pour se mettre lui-même certains bâtons dans les roues et aussi peut-être découvrir des vertus à diriger une province. et un certain plaisir, mais...
Que de mauvaise foi, frère.
Oui, tout à fait. Mais comment vous
je
analysez
vous laisse,
ça?
Non,
ouais,
c'est vrai.
Comment vous percevez un peu? Parce que bon, on est à deux ans des élections, ça peut changer.
Mm-hmm.
Est-ce que ça vous surprend, ce regain?
Non, pas du tout. C'est très évident que le CAQ a fait vraiment beaucoup de erreurs,
oui.
Beaucoup de vraiment des choses qui... Il n'y a pas de bon sens dans plusieurs domaines, dans santé, dans... Puis récemment, toutes les décisions qu'ils ont prises, moi, je dis toujours « aïe, aïe, un vrai Québécois comme aïe, aïe, like, c'est pas possible. »
Trouviez-vous que les libéraux étaient mieux?
Non, pas nécessairement, mais à cause qu'ils ne sont pas vraiment en pouvoir.
Non,
comme...
ouais.
Non.
Les libéraux sont rendus le PQ d'il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils vont mourir.
Mais
c'est
oui,
vrai,
mais
c'est vrai,
mais
ça
là, en politique, tu sais, 6 mois est vraiment très, très long.
Il y a un an et demi, on pensait que la CAQ était là pour 30 ans.
Oui, non, mais c'est ça, on ne sait jamais. Je me sens vraiment, puis je l'ai dit souvent, comme un vrai orpheline politique.
Ouais.
Puis un vrai, pas comme Paul. Vraiment comme un...
Ben, il a été, puis à un moment donné...
Non, regarde, oui.
Non, mais je comprends, moi aussi, je me sens comme ça.
Je me sens... Parce que, même si je suis d'accord avec quelques... C'est sûr qu'il y a quelques partis qui me font pas vraiment trop plaisir, mais je suis quelqu'un qui est ouverte à beaucoup de propositions. Je garde qu'est-ce que chaque parti va proposer.
Ouais. Vous n'allez pas voter pour le PQ? Si jamais il y a une élection dans deux ans.
Dans deux... Je sais... Honnêtement, je sais pas. Donc, je pense que tout le monde qui me connaît, je pense, seront surpris si je vote pour le CAQ, c'est sûr.
Ouais.
Je trouve que c'est un parti qui, honnêtement, je le dis publiquement, c'est un parti qui a fait vraiment régresser le Québec pour moi.
Ouais.
Régresser. Les débats identitaires nuisent au Québec, à notre futur. si tu marginalises puis tu fais comme les immigrants, les minorités religieuses, toutes les boucs, ouais, les boucs émissaires, ouais, c'est ça crée vraiment leur resentment, le, ouais,
ressentiment.
Le ressentiment, ouais, ouais, qui est pas bon pour notre futur, pour trouver le moyen de vraiment se rapprocher, mm, puis pour tout le monde de se sentir chez nous.
Ouais. C'est drôle parce que vous en parlez dans votre livre, entre autres, la loi 21. On est dans la reconduction de la clause
nonobstant.
Nonobstant, bon. Il ouais, y a plusieurs, dont Louis-Philippe Lampron, entre autres, des spécialistes qui disent que c'est quand même toujours un jeu dangereux de se servir d'un mécanisme juridique pour exclure les droits de certaines personnes.
Ouais,
en même temps, on apprend qu'une école juive qui ne respecte pas le programme reçoit encore son financement du gouvernement de la CAQ.
Mais c'est hypocrite, c'est vraiment hypocrite.
Tout à fait.
Parce que tous les écoles privées religieuses continuent,
ouais,
qui sont soutenues par
les fonds
qui reçoit toujours, mmh, les fonds publics. Ouais. D'abord, pour moi, c'est hypocrite. Pour moi, vraiment, c'est le chapitre où je parle de tous les lois antidémocratiques, anti-immigration. Ouais. Pour moi, je suis convaincue dans 40 ans, 50 ans, on va parler de la loi 21.
De la même façon.
Même façon.
Ouais. Vous rappelez qu'on a de la difficulté à comprendre pourquoi des gens gardent leur spiritualité alors que nous, les francophones, les années 60, la désacralisation de plein de choses, que dans le fond, l'anti-religion est rendue la religion de la majorité francophone. Puis ça aussi, j'avoue que j'ai bougé à ce niveau-là. Je n'étais pas le plus grand défenseur de la loi 21, mais j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi le religieux est si important pour des gens qui sont venus d'ailleurs. Et vous rappelez que c'est une réalité, puis que c'est pas grave.
Parce que ça appartient à leur culture, ça appartient à leur identité. C'est pas nécessaire de comprendre tout, ouais, pour laisser les gens vivre. C'est pas la femme voilée que je défends finalement. Je défends les gens qui ont le droit légitime, ouais, de vivre leur vie, parce que ces lois-là présument qu'il y a quelque chose de mauvais, qu'une femme...
Quelque chose de dangereux.
Dangereux.
Pour la collectivité.
Oui, puis ça, c'est dangereux parce que si la première... Je te vois que t'es pas d'accord avec moi, mais laisse-moi finir ma phrase.
Bien sûr. C'est... Je fais juste grimacer un peu.
Je
fais des exercices.
Si vous aviez un voile...
J'observe.
Si vous aviez un voile, on l'aurait pas vu.
Non, mais je vais expliquer ma position, vous allez voir, c'est pas...
Allez-y tout là.
Non, mais c'est pas le voile. Si quelqu'un m'a demandé est-ce que tu vas porter le voile, je dis non, jamais. Mais ça va dire rien. Mais j'ai beaucoup de amis qui portent le voile puis après, qu'ils ont pris la décision libérairement. C'est pas parce que la famille ou la culture, sont les gens, les adultes, qui ont disent « pour moi, c'est important
». Non, mais je dirais ceci d'abord, c'est que je pense que si on veut faire ce genre de loi, okay, il faut être d'une cohérence absolue.
Oui.
Pour moi, par exemple, quand la loi est sortie, pour moi, il y a un endroit qui me paraissait problématique, c'était le rôle des enseignantes. Parce que si, par exemple, vous allez à l'école aujourd'hui, à Montréal en particulier, vous allez avoir des femmes voilées qui sont dans les services de garde. Vous allez avoir des femmes voilées qui conduisent des autobus. Vous allez avoir des femmes voilées qui font le ménage. Mais vous ne pouvez pas avoir une femme voilée qui enseigne à des enfants. Là, je trouvais qu'il y avait une incohérence parce que, de façon visible, il y a une discrimination. Maintenant, si, par exemple, pour le port des métiers qui sont des métiers où il y a la possibilité de l'exercice d'une force et d'une coercition, ouais, et que ce sont des métiers à uniforme, le mot le dit, uniforme, je trouve pas ça si choquant qu'on dise, par exemple, qu'un policier ne devrait pas porter de signes religieux, ouais, ou qu'un juge ne devrait pas porter de signes religieux, parce qu'à ce moment-là, ce qu'il se trouve à faire, et c'est une conception républicaine, c'est pas une conception automatiquement intolérante, c'est une conception qui dit, au fond, ben dans certains exercices, quand il y a l'exercice de la force légitime, à ce moment-là, l'individu est dans la fonction que lui donne l'État. Et l'État dit... Tu peux, toi, arrêter quelqu'un, le menotter. On veut pas que dans ton apparence, quelque chose puisse exprimer un parti pris. Ceci dit, je suis pas naïf. Je sais bien qu'on peut avoir aucun signe religieux, puis être un salaud, puis un raciste. Comprenez? Mais alors, pour moi, c'est pas une loi qui est entièrement non plus à condamner. C'est une loi qui se comprend, mais dans une logique qui n'est pas celle de la tradition anglo-saxonne. Ça, c'est sûr.
Oui.
Dans la tradition anglo-saxonne, qui est la tradition, je la connais bien parce que c'est le protestantisme, c'est l'éclatement déjà il y a 5 siècles.
Oui.
Les protestants se sont habitués à gérer la diversité parce qu'ils n'étaient pas d'accord, puis ils se sont entretués pendant un siècle et demi. Puis il y en a plein qui sont partis aux États-Unis fonder le pays pour ça. Dans la vision plus républicaine, il y a un peu de ça au Québec. Ouais. Ben quand même, le Code civil.
Mais Mathieu, je veux dire, on vient de le dire, ce gouvernement-là, avec l'inventaire de la charte, finance des écoles juives qui ne respectent même pas le programme pédagogique.
Non, mais je ne défendrai pas ça.
Non, je sais.
Mais ce que je dis, c'est que...
qu'on se rend compte à l'usage, c'est que c'est les musulmanes qui nous énervent avec cette loi-là. Parce que ce n'est pas toutes les religions.
C'est vraiment une loi simpliste, moi, je trouve, qui fait plaisir aux gens.
Non, mais
ce
n'est pas une bonne loi, nécessairement.
Mais la réflexion a le droit d'avoir lieu par rapport...
Ben, j'espère.
Tout à fait.
Ben, réflexion, oui. Mais les lois, je trouve que le CAQ suivant prend les décisions qui sont très... fait plaisir, à sa base.
Mais c'est tout croche.
Tellement croche.
Ça, c'est sûr.
Tellement croche.
J'ai l'impression qu'on ne mesure pas l'impact que ça
a. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça que j'essaie d'expliquer.
Pour ceux qui vivent ça.
Oui, exactement. Parce qu'il y a des gens qui me disent souvent, puis c'est sûr, c'est ça la réponse. Ah, mais non, c'est rien. Tu demandes quoi? Juste d'enlever ta voile pendant les heures de travail. Mais si je demandais à quelqu'un qui est francophone, mais toi, tu n'as pas le droit de parler français pendant les heures de travail. Ouais. Je sais que ce n'est pas équivalent. Mais je dis quelque chose. Pas quand tu es payé pour ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? J'essaie de trouver quelque chose qui est équivalent qui est vraiment quelque chose qui appartient à ton identité comme francophone.
On aurait la misère à répondre, Toula, à cette question-là. Ouais. Et en même temps, on dit que les immigrants menacent nos valeurs.
Notre valeur puis notre culture.
On aurait de la misère à dire qu'est-ce qu'on aurait de la misère à laisser de côté de 8 à 5 pour répondre à une loi, mettons, qui nous viserait. Ça montre quand
même. Mais c'est pour ça que j'ai pris la langue, parce que pour moi, je trouve que ça appartient vraiment à... C'est quelque chose qui est très précieuse pour l'identité francophone ici du Québec. Je sais pas si c'est difficile pour moi de m'exprimer sur ce sujet qui est vraiment complexe avec ma troisième langue, mais je fais mon mieux.
En passant, vous faites vraiment bien ça.
Merci.
J'ai beaucoup de respect pour vous.
Merci.
Évidemment, je vais faire un doublage tout le long. Là, mais...
Merci beaucoup.
Permettez-moi juste de revenir brièvement ce que je dis.
Ça aide ma confiance beaucoup.
Ce que je voulais défendre, c'est pas la loi 21.
Non, je comprends, Mathieu.
C'est l'idée que... penser une forme de laïcité pour des positions de force, des positions qui expriment la légitimité de la force exercée par l'État, c'est pas non plus... Le Québec n'a pas inventé ça.
Non, mais c'est pas ça. Mais Mathieu, le problème, c'est
que... Je pense que la
laïcité
existe déjà. Ça fait longtemps qu'il existe la laïcité ici.
Non, mais quand vous allez en Angleterre et vous voulez être juge, là, vous êtes obligé de porter une perruque
ridicule.
Ouais.
Comprenez,
mais je veux dire,
c'est ridicule.
Vous avez raison, mais sauf que cette loi-là,
non, c'est ça.
C'est pas ça qu'ils ont fait.
Je sais.
Et ça a des
conséquences. Sauf que la perruque en Angleterre marginalise personne, c'est ça la différence. Oui, ils sont tous ridicules avec les perruques, mais oui, sûr. Mathieu, le problème avec ces lois-là, ça marginalise les gens.
Ouais.
Le message qu'envoient les lois comme ça, ça dit qu'il y a quelque chose de dangereux à ton comportement, à ta religion. Regarde, je connais pas mal les femmes musulmanes qui portent le voile. Elles sont toutes les femmes intelligentes.
Bien sûr, bien
vraiment,
sûr.
Comme les gens... J'ai fait les entrevues avec les femmes, les enseignantes que nous, la province, a perdu parce que les gens ont parti. Nous avons besoin des enseignants. Puis on a chassé ces gens-là à l'autre bout de Canada, parce que c'est tout à fait normal que si quelqu'un te dise « Non, je t'aime pas comme tu es. Il faut que tu changes. Il faut... » Puis c'est ça le message que souvent est envoyé par ces demandes. La langue que tu parles chez toi, c'est pas français. Oh, nous avons un problème. Même si t'es quelqu'un... C'est tout à fait normal que moi, je vais parler grec chez moi avec ma mère.
Mais ça, c'est revenu... Moi, ça m'étonne qu'on le remarque pas plus. Dans les années 90, là, puis le début des années 2000, je me rappelle pas de politiciens ou de commentateurs qui remettaient en question la langue parlée à la maison. On parlait de la langue commune.
Oui.
On demandait aux immigrants...
Les démographes en parlaient. Ça a toujours été dans la...
Mais c'était pas un problème. C'est redevenu un problème que... Et j'ai l'impression que ça va nous mener dans quelques années à plus de natalité. En France, on parle de réarmement démographique. Peux vous dire que ça s'en vient ici.
Oui, c'est dangereux, ces messages-là, je les vois.
Parce qu'on parle pas assez français à la maison.
Oui.
Ça m'étonne qu'on remette encore en cause la langue parlée des gens à la maison.
J'ai remarqué la même chose, puis c'est pour ça que je parle d'une régression.
Oui.
C'est très réactionnaire ce qui arrive ici au Québec maintenant. Où nous sommes en train vraiment de changer comme société. La loi 101 a fait son travail. Ouais. Les générations, deuxième, troisième génération des immigrants, sont, tous parlent français maintenant. Les gens qui veulent, puis les chroniqueurs, puis le politicien qui veulent créer une crise,
ouais.
Je vais le dire en anglais, puis tu peux traduire, parce que ouais. Je sais pas quand, c'est quoi l'expression. They're changing the goalposts. Parce qu'ils disaient avant, oh non, mais la seule chose qu'on veut, que tu parles français, ouais. Puis on peut,
que ça va être
la
langue.
Puis une seconde. Maintenant, la communauté anglophone, presque tous, c'est sûr qu'il y a une petite proportion, les gens qui sont plus âgés,
ouais.
Tous les jeunes sont tous bilingues. La communauté anglophone parle, les allophones, tous envoient leurs enfants à l'école francophone. Puis même les nouveaux arrivants maintenant, puis les demandeurs d'asile, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la même chose, ils vont envoyer ouais. Leurs enfants, la deuxième, même ouais. Si ces personnes-là réussit probablement pas de parler un français
parler.
Parfait, oui. Mmh. comme moi. Mon français sera jamais parfait. Je suis capable de parler, je suis capable d'apprécier la culture. Mais à la maison, désolé, je parle grec avec ma mère, puis souvent avec mes amis, je parle anglais. Désolé.
J'aurais aimé le savoir avant.
Oui, mais too late, too bad.
Je termine avec ça. Oui. On pourrait continuer.
Oui, c'est ça, c'est sûr que c'est un sujet...
Vous allez revenir pour votre autre livre, Tula Drimonis. Vous parlez de la diversité.
Oui.
Je pense que c'est le chapitre 14. Vous remarquez en 2020, entre autres, le peu de diversité chez les chroniqueurs et chroniqueuses dans les journaux, dans la presse, entre autres. Jean de Montréal aussi. Vous tombez sur un article qui parle de la résilience des entrepreneurs pendant la COVID et on ne parle jamais dans l'article des entrepreneurs issus de l'immigration ou de la diversité. Et pourtant, on en parlait de la diversité pendant la pandémie. Il était utile pour venir prendre les jobs que les autres ne voulaient pas. Et bon. Et vous parlez de Charles-Alexandre Théoret. Ça, c'est drôle, parce que j'étais à la soirée encore jeune à l'époque. Ouais.
Puis quand je dis dans mon livre rien contre lui, puis rien contre le journaliste, on parle des angles morts qui existent partout, moi aussi.
Voilà,
je
il était recherchiste.
Oui.
Mais vous dites que pour parler de la crise grecque, je crois, avec la FMI, tout ça. Bon,
exactement.
Et lui avoue qu'il a eu de la difficulté à trouver une personne de la communauté grecque qui parle
mais
français.
Mais c'était un article de la presse,
oui, voilà,
si je me souviens.
C'est ça.
Oui.
Et Charles-Alexandre était recherchiste à la soirée encore jeune à l'époque où j'y étais.
Oui.
Et ça vous a mis le feu. Au derrière.
Mais un peu. Je suis en train de lire ça
en
français. Quand nous sommes la majorité, n'importe qui, quand nous sommes la majorité, puis je parle souvent d'actualité en Grèce ou aux États-Unis ou le reste du Canada, quand nous sommes la majorité, c'est très facile d'avoir les angles morts, puis la média sont pas vraiment souvent dans une position de corriger ces angles morts parce qu'eux aussi souffrent.
Mais ils sont dans l'urgence aussi. Donc, des fois, tu sais, ça va vite, là.
Oui, mais on parle de subconscious bias.
C'est
biais inconscient.
Tout là, vous donnez l'exemple, Jean de Montréal, qui utilise une photo de jeunes noirs qui s'en vont à l'église pour un texte sur les gangs de rue.
Ouais.
Je comprends être dans l'urgence, là.
Non, mais ça, c'est...
Tu sais, moi, je suis un grand fan des bye-bye que j'ai toutes numérisées. Les blackface, là, dans les bye-bye, là, ça commence en 68 jusqu'en 2012.
Ouais.
Chaque année. Puis je comprends que, pour la majorité francophone, le blackface, pendant longtemps, on savait pas c'était quoi.
Ouais.
On savait pas
ça
que
qu'il n'y avait pas la connotation américaine.
Non.
On voyait
non.
pas.
Non.
Mais reste que Denise Filiatro parlait à un comédien qui avait un blackface puis qui parlait petit nègre puis elle était méprisante dans un sketch que, bon, puis ça là c'est de 1968 à 2012 fait que oui, il y a du travail encore là, c'est pour ça que les médias ont une responsabilité de faire attention
tellement.
Dans ces questions-là.
Puis je pense que nous avons tous leur responsabilité. Si quelqu'un te dit quelque chose, si quelqu'un écrit quelque chose puis toi ça te frappe ou tu trouves que c'est injuste, prends le temps juste de réfléchir un peu parce que puis je vois ici au Québec, ça arrive souvent. Nous avons, à cause de toutes ces insécurités linguistiques et culturelles, nous avons souvent la réticence de... La majorité a souvent la réticence de dire « Ah oh non, les gens sont en train de nous blâmer, de faire Québec bashing. » Puis de pas vraiment prendre le temps de dire « Attends, ça se peut que ces personnes-là a vraiment un point légitime ici. Puis ça nous empêche vraiment de... C'est drôle parce que le Québec est vraiment progressif puis ouvert à plein de choses, mais à la même temps, souvent, on régresse avec ce discours-là. C'est ça le dilemme ici que nous avons,
Le paradoxe, c'est une sorte de paradoxe ou de tension.
Le paradoxe, c'est une majorité qui est une minorité. Ouais. Les anglophones ici sont une minorité qui est vraiment une majorité. Ouais, tout le monde est en mode réactionnaire, puis on prend pas le temps vraiment de s'approcher puis de dire hey, nous avons vraiment le point en commun. Ouais. Beaucoup.
On le fait aujourd'hui.
Puis sont les politiciens qui profitent souvent de ce discours-là.
C'est vrai.
Moi, ce qui m'a frappé, je vais juste le dire, mais vous-même, comme fille d'immigrants et tout ça, vous êtes un peu prise, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je pense vous avez été la chouchou. On a dit « Ah, vous nous aimez, nous, les Québécois. »
Oui.
Puis là, peut-être que c'est les anglophones qui vous aimaient moins, je ne sais pas.
Ça dépend de la semaine.
Et là, c'est un peu l'inverse. Dans un sens, c'est très particulier aussi à Montréal et au Québec que l'immigrant qui arrive, il n'arrive pas dans une culture... il y a une culture majoritaire, mais il arrive quand même dans une tension.
Oui.
Il arrive dans un lieu où il y a une bataille politique et médiatique. Tu sais, par exemple, dans les 10 derniers éditoriaux de la Gazette, il y en a 6 qui parlaient de la langue.
Okay?
Alors, tu sais, c'est une bataille. Donc, tout ça pour dire que il est difficile. J'ai l'impression que parfois, l'immigrant ou l'immigrante se sent pris à choisir son camp ou à... comme, c'est compliqué comme dynamique. Est-ce que vous faites des reproches des deux côtés?
Comme je dis, ça dépend de la semaine, ça dépend du sujet. Ouais. Mais récemment, parce que je ne suis pas vraiment d'accord avec ce gouvernement-là, puis les politiques concernant la loi 21, concernant 96, même 96,
on n'a pas parlé.
Je suis tout à fait d'accord avec la nécessité de protéger le français. Je comprends les réalités de français ici, au Canada, puis... dans l'Amérique du Nord, je comprends l'anglo-normativité.
Ouais.
Je sais que tout ça existe, c'est pas l'imagination de francophones, mais à la même temps...
J'attendais le mais.
Non, mais ça va arriver parce que la langue va très bien à la même temps. C'est une langue qui, oui, est fragile, mais est en bonne santé. Je vais la résumer très facilement. Ouais. On perd notre temps souvent. Les politiciens et les chroniqueurs vont perdre le temps de mettre l'accent sur 10 % des gens au Québec qui ne parlent pas français ou probablement veulent pas. Ça se peut qu'il y ait une petite minorité qui dise « I don't care ».
Genre bizarre.
Whatever. Oui, c'est ça. Au lieu de célébrer les 90 % de gens qui parlent français, se sont fiers de parler français, envoient leurs enfants, même les gens qui ne sont pas obligés. Je connais pas mal de gens, des anglophones, puis des allophones qui ont les droits.
Beaucoup de familles italiennes envoient leurs enfants
à
l'école française.
Parce que les
gens,
les immigrants ne sont pas stupides non plus. S'ils veulent que leurs enfants restent ici, s'ils veulent que leurs enfants ont un meilleur avenir, qu'ils sont bien intégrés, il n'y a pas un migrant qui va partir de son pays pour recommencer sa vie sans rien, sans ressources, sans rien, sans apprendre la langue, puis de ne pas mettre l'effort d'apprendre la langue, puis de se rassurer que ses enfants vont réussir bien.
Mais des fois, quand je vous lisais, je me disais, c'est comme si vous reconnaissiez parfaitement la réalité, vous la comprenez parfaitement.
Mais je la minimise un peu.
Non, pas ça. Ah. Mais c'est comme si vous... dès qu'il est question d'agir politiquement, c'est là que ça vous dérange.
Mais ça dépend
Mais je vais vous donner un exemple. Oui, non, je comprends. Puis, par exemple, on pourrait parler du financement des universités anglophones. C'est mal ficelé, tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre, par exemple, à Montréal, entre les universités anglophones et francophones sur le plan de leur puissance et de leur rayonnement? Est-ce que c'est normal, par exemple, que sur l'île de Montréal, il y a une majorité d'étudiants qui diplôment au collégial en anglais sur l'île? T'sais, autrement dit, est-ce qu'on peut, sans tomber dans les scénarios catastrophes ou les discours de peur, parce qu'il y en a, puis vous donnez les exemples de l'OQLF, là, l'Office de la langue française, le Pastagay, tu sais, c'est ridicule, vraiment ridicule. Mais est-ce que, politiquement, on peut agir? Parce que, dans un sens, des fois, je vous lisais et je me disais, est-ce que tout là, parce que là, c'est de la politique fiction, hein? Moi, je suis né en 1976, donc, mais est-ce que Toula aurait été d'accord avec la loi 101 en 1977 ou est-ce qu'elle aurait eu un peu le même discours? Parce que quand je vous lis dans le texte, vous dites « Normalement, une culture devrait être assez forte pour se défendre toute seule. » Donc, ça veut dire qu'on ne devrait pas le protéger?
Non, c'est non. pas ça que je dis. Puis je pense que je l'ai
Vous auriez
dit.
Été d'accord?
Je l'ai dit dans ouais. beaucoup de mes chroniques. Je suis d'accord. Je suis pas quelqu'un qui est ouais. pas d'accord avec la loi 101. Je comprends la nécessité parce que...
Si on dit on va la renforcer...
Ça dépend quoi. Parce que ouais. pour moi, la loi 96, il y a des choses qui sont purement politiques. Sont pas vrais, ils font rien.
Ouais.
C'est
ouais.
Si ouais. tu es en train de punir les gens qui n'ont pas appris le français encore, comme les nouveaux arrivants,
ouais, ouais.
les demandeurs d'asile, désolé, ça, c'est, pour moi, ce n'est pas la protection du
Je
français.
Comprends.
Ça,
mois,
c'est juste ouais. de punir les gens. Quand la loi est sortie, j'ai écrit puis j'ai dit, il y a des choses dans la loi 96 que je suis d'accord avec. Ne me okay. dérange pas d'investir plus d'argent. Le problème avec ce gouvernement-là, c'est qu'ils ne veulent pas vraiment investir ouais. l'argent. Si on veut que la francisation marche bien, on a besoin d'investir, de mettre ouais. l'argent. Mais de punir les gens avec les lois punitives, les lois qui
mais
sont
c'est toujours
petits.
Un peu...
Ouais,
mais je comprends, sauf que
pour moi,
c'est toujours
petits.
Un peu punitif. Parce que, par exemple, quand vous parlez de la loi 101, vous dites, dans votre livre, vous dites ça violait les droits. Tu sais, donc, c'est-à-dire,
mais c'est vrai.
Ça a fait de la chicane.
Mais c'est vrai.
Puis ça a fait, oui, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que...
Pas juste pour les anglophones, pour les francophones aussi.
Bien sûr. Mais
les francophones n'ont pas le droit d'envoyer leurs
oui.
enfants à l'école
de façon,
anglophone.
Ils l'apprennent. Non, l'anglais, ça s'apprend.
Attendez, ils ont droit au privé.
Et ça s'apprend dans la...
Non, mais... Ça, c'est une autre discussion.
Oui,
on peut prendre une heure pour parler de l'hypocrisie
oui.
de faire ces lois-là qui sont tellement faciles de circumvent.
Oui. Oui. Moi, je reviens juste à l'idée que...
Les écoles
privées. Je comprends que ce n'est pas des sujets faciles, puis qu'on peut déraper, puis que. Mais dès qu'on veut agir dans ce genre de dossier-là, forcément, ça crée de la chicane.
Oui.
Forcément, ça crée du désaccord.
Mais Mathieu...
Après, il faut avoir le doigté et l'intelligence oui. de faire les choses. Mais je veux dire, ça va toujours. Tu sais, si on veut qu'il n'y ait jamais de chicane, ben on fait rien, puis on laisse juste tout le monde faire. Tu sais, comme, je veux dire, à un moment donné,
Mathieu,
la politique fait ça
oui,
aussi.
Sauf que quand on touche à la langue...
Là, je ne défends pas la CAQ, là.
Non.
J'essaie juste d'expliquer que
mais
c'est...
Moi, je vous avoue que j'ai changé mon fusil d'épaule par rapport
à
la langue, entre autres.
Oui.
Ouais. Parce que je trouve ça zéro sexy de surlégiférer sur des sujets comme la langue.
Puis
je ne suis pas contre la loi 101. Mais là...
Moi non plus.
Mais...
C'est pas sexy. Y a-t-il une loi qui est sexy?
Ben, il y a des lois.
Ben non.
Y a des lois...
Y a pas, c'est pas sexy, les lois. Là.
Non, mais je dis, c'est pas attirant pour les autres. Fait que finalement, on est dans une espèce de loop.
Oui,
c'est-à-dire
mais...
qu'on fait des lois pour dire à des gens qui sont pas comme nous, parce que c'est un peu ça.
Oui.
Parce que. En fait, ça induit.
C'est pour répondre à quoi, Fred?
Mathieu.
C'est parce qu'il y a des lois. Pourquoi c'est ça comme ça? C'est qu'on fait des lois pour essayer de contrer d'autres lois qui sont les lois du marché.
Oui.
C'est juste ça, dans le fond.
Mais il y a une crispation identitaire présentement qui
oui.
doit...
Il peut en avoir une.
Il y en a une. Puis le PQ est en train de revivre grâce à ça en partie.
Oui.
Non, mais que ça, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais c'est ça la réalité. Quand PSP parle d'immigration, une allocution sur trois, c'est parce que c'est payant politiquement. Parce qu'il y a des chroniqueurs, ça fait 10 ans, 15 ans que des chroniqueurs,
ouais.
on ne va pas les renommer. J'en parle souvent... qui prépare le terrain.
Ouais.
Mais moi, je trouve que c'est pas attirant pour des gens qui ne sont pas dans cette grande majorité
ouais.
quand on leur dit...
Sauf que c'est structurant. Tu sais, quand, par exemple, on a fait la loi 101...
Oui, la loi...
Pas,
je remets pas,
pas
en question la loi
non,
101,
mettons,
mais c'est
non,
pas
non,
le même contexte,
mais...
Mathieu, en 77 puis aujourd'hui.
Ben,
c'est pas le même contexte.
Si, mettons, on dit, exemple, on étend la loi 101 au cégep, ben, on fait juste renforcer quelque chose qui est en place...
Mais
est-ce
avant,
que c'est sexy? C'était pas plus sexy en 77?
Les stats disent maintenant que 94% des Québécois et Québécoises...
Ouais.
Je sais que tu peux dire, ah, ça se peut que c'est exagéré.
Ouais,
même si on
pas.
Dise que 94% des gens peuvent avoir une conversation, c'est débrouillé. Tu sais,
ouais,
ça se peut que c'est pas parfait, mais sont les gens qui sont capables de parler français. Ça, c'est beaucoup. Puis ça... augmenté beaucoup si on compare. On se compare les années 60 où les anglophones parlaient pas français. Les allophones,
oui.
la plupart, étaient dirigés. Même les gens qui
oui,
voulaient
je sais,
aller
je sais.
À l'école francophone...
On les voulait pas.
voulait pas. Souvent, puis maintenant, les gens sont quand même stigmatisés parce que je vois les messages des gens qui disent « Ah, mais toi, t'as pris la décision d'aller à l'école anglophone parce que tu voulais plus de pouvoir que les gens. » Puis je vois les personnes... Les gens sont pas au courant, malheureusement, de notre histoire ici. Ouais. C'est nécessaire de raconter ça puis de comprendre que ces gens-là étaient dirigés à l'école anglophone parce que l'école francophone ne voulait pas d'eux. Eux. Les inquiétudes qui sont souvent légitimes ici, culturelles, linguistiques, on manque souvent la patience puis la confiance de laisser les gens tranquillement tomber en amour avec la langue. On prend pas ça comme un défi positif de dire « Hey, comment on va arranger ça? Comment on va trouver la façon de... » expliquer aux gens que c'est nécessaire de parler français, puis en plus que ça, ça va ouvrir un monde entier pour toi, puis de... Mm-hmm. Moi, je l'ai appris moi-même, c'est pas parce que quelqu'un
souvent,
a dit...
on passe à l'anglais, d'ailleurs, on essaie même pas...
Mais c'est ça un peu, tout là, vous résumez un peu ce que je voulais dire dans le côté pas sexy des lois.
Ouais. Ça crée le ressenti.
La loi 101, c'était nécessaire. Tu sais, avant, mettons, de... légiférer pour changer la répartition de l'anglais sur l'île, je m'arrangerais pour que les cégeps en région soient bien financés, que le réseau des universités du Québec soit bien financé parce qu'il est sous-financé. Fait quoi, on peut parler de McGill? Mm-hmm. On peut mettre des règlements pour nuire à McGill? Puis tu sais, moi, je suis pas en pamoison devant McGill, mais si on revoit pas le financement, parce que c'est François Legault, entre autres, alors ministre de l'Éducation, parce que lui, il avait une logique économique de capitaliste extrême, puis dans le fond, l'université, c'est un marché. Tu sais, il y a ça aussi.
Ouais, je pense que ça va commencer avec Couillard, mais oui. Vous avez raison.
Mais il y a cette couche-là. Moi, c'est pour ça que je me dis, avant de légiférer, on peut-tu s'arranger pour que les gens qui ont envie, la plupart qui ont une bonne volonté, je pense, quand ils viennent ici,
certainement,
qui vont s'insérer dans une culture confiante en elle un peu, parce que je pense qu'une culture qui n'a pas confiance, elle n'est pas attirante.
C'est la même chose avec la loi 21. Il y a des gens, dans une génération, deux, il y a les plus jeunes vont dire « Ben, j'ai pas besoin de la religion. Ouais. » Mais si tu fais ces débats-là sur leur dos, ça devient...
Ils vont le prendre, ils vont devenir plus religieux.
It's like I say in my book, it's going to be the hill I die on. Si quelqu'un me dit « Oh, mais toi, ta culture grecque, je veux rien savoir, tu peux pas parler grec. »
Vous allez devenir plus...
I'm going to be dancing Zorba on the street. Vraiment, c'est... Même Zorba. Si c'est même pas quelque chose
de... La rue du Lutte va faire dur.
Le jardin de Panos.
Jardin de Panos. Christina.
Que de souvenirs. Que de beaux souvenirs.
Mais tout là, puis on va terminer avec
ça.
Mais vous rappelez que et Lucien Bouchard et Paul Saint-Pierre Plamondon et Jacques Parizeau ont étudié.
Je sais.
À Londres, entre autres. Donc, c'est au niveau. C'était pas au cégep, là.
Oui.
Mais je dis, c'est pour ça que c'est ironique.
Non, pas encore étudié à Londres.
Oui, c'est ça que vous aimeriez, en fait. Et non pas dans
c'est sûr qu'il y a des gens qui disent « Ah non, tu sais, la bilinguisme individuel à rien savoir. » Puis c'est ça, puis c'est toujours la réponse. Mais en même temps, c'est ça que tu disais avant. Les gens ne comprennent pas. C'est facile de parler de loi ou de parler de ça ou la nécessité de garder la langue. Mais les termes que nous utilisons pour faire ces débats-là, les gens ne comprennent pas comment ça nuit.
Non.
Au sentiment d'appartenance, comment ça fait ces gens-là, les autres, les nouveaux arrivants, se sentir pas bienvenus.
Oui. Vous parlez beaucoup dans votre livre d'altérisation.
Oui. Othering. C'est très, c'est vraiment quelque chose. Othering, oui, c'est ça. Altération, altérisation, oui. C'est vraiment important parce que souvent, ça se fait d'une façon stratégique par beaucoup de politiciens,
ça se fait souvent des fois aussi de manière un peu naïve et
inconscient. Oui. Mais c'est pour ça que je dis dans mon livre aussi, quelqu'un me demande d'où tu viens. Me dérange pas. I don't care.
Mais
c'est
si
ça.
Tu te le fais demander 10 fois par jour, à un moment donné, ça devient
c'est
lourd.
Ça. Puis la réalité, on peut parler de l'immigration, on peut parler de quotas ou de tout. La réalité, c'est que le taux de natalité est bas.
Oui.
Nous sommes une société vieillissante.
Oui.
Nous avons besoin de l'immigration.
Oui.
On peut parler, on peut jaser de nombre de comment on va faire, puis tout ça. Mais la réalité, on peut pas perdre notre temps de débattre la nécessité de l'immigration. C'est une solution pour beaucoup de choses.
Oui.
C'est une nécessité pour nous, parce que les anglophones puis les francophones, les pourcentages commencent à baisser, puis c'est le nombre d'allophones qui
augmente. L'anglais à la maison aussi est en baisse. Alors, on lit, nous les autres, traduction de Mélissa Véraud. Il faut quand même le dire, parce que la traduction...
est excellente.
C'est un art.
Oui, oui. Ouais. Tout à fait. Puis je peux dire.
Vous avez travaillé avec elle aussi. Là.
On a travaillé ensemble. Je veux vraiment souligner son travail parce qu'elle a vraiment pris le temps de poser des questions, de comprendre les nuances. C'était vraiment une collaboration géniale. Ouais. J'ai beaucoup aimé travailler avec elle. Puis elle avait vraiment aussi une sensibilité pour ces sujets-là parce qu'elle aussi, son chum, son mari, est immigrant.
Ah oui. Non, ils sont partout.
Désolée.
On est en train de se faire remplacer.
Oui, remplacement démographique, désolée, ça arrive.
Renaud Camus sort de cet art.
Là, noyade démographique,
désolée. Moi, je fais du réarmement démographique. Oui. Là. Il y a mon petit 2 ans et demi qui vient d'arriver. Ouais. Fait qu'on va arrêter ça parce qu'il va descendre, il va vouloir venir nous voir à Miville. Hey, Mathieu, merci, c'était le fun.
Oui, merci.
C'est une belle formule.
On a du plaisir. On a du plaisir.
On discute.
Oui, puis c'est bien du choc des idées.
On fait ça.
J'aime ça.
Mais c'est pas nécessaire d'être toujours d'accord. J'ai écrit pour le
mais
livre
ça, vous
le
dites
de.
Au début, d'ailleurs.
Oui.
Vous
je pense que c'est nécessaire juste d'être ouverte. Tu sais, l'ouverture d'esprit est nécessaire. J'ai écrit le préface pour la traduction en anglais de livre de Akos Verbozzi qui a écrit La loi, l'enfant de la loi à santé.
Oui, il y a cette phrase célèbre où il dit la Hongrie, c'est pas une raison pour me faire chier.
Oui, oui. Puis, je suis pas. C'est
salut,
sûr
Akos.
Que je suis pas. Toujours d'accord avec lui, mais j'ai écrit la préface avec plaisir parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aimées de ce livre-là.
Ouais.
C'est pas nécessaire d'être toujours d'accord avec tout.
Non.
C'est juste être heureusement.
C'est ça, faire une société.
Oui, puis c'est ça, la diversité d'opinions puis de toutes sortes de choses. C'est juste une ouverture d'esprit et de cœur qui est nécessaire.
OK, là, je pèse sur stop. Vous arrêtez pas de parler.
Okay.
Bye.